Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Une fusillade est survenue dans la nuit de samedi à ce dimanche près du camp de déplacés de guerre à Kanyarushinya, c'est à environ 10 km de Goma. Bilan, un mort et une femme déplacée de guerre grièvement blessée. L'origine de cette fusillade n'est toujours pas connue. La province du Maïndombe vient de bénéficier d'un financement pour la plantation de 2000 arbres au cours de l'année prochaine dans du fonds forestier national. Ces arbres rentrent dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Dr Elia Badjo, médecin coordonnateur du Conseil sur la santé et l'Académie des médecines dans le Nord Kivu. Il nous parle ici des activités menées en faveur des déplacés de guerre se trouvant dans différents sites à Goma. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, un mort et une femme déplacée de guerre grièvement blessée. C'est le bilan d'une fusillade survenue dans la nuit de samedi à ce dimanche près du camp des déplacés de guerre à Kanyarushinya, groupement de Munigi, à environ 10 km au nord de Goma, dans les territoires de Nyiragongo. Les sources sur place indiquent que l'origine et les responsables de ces tirs ne sont toujours pas connus. Le point de la situation avec Gabriel Wamenya.
C'est aux environs de 21h que des détonations d'armes automatiques ont été entendues autour du camp des déplacés de Kanyarushinya, créant ainsi une vive panique au sein des déplacés. Ces coups de feu ont duré plus d'une heure, confirme l'un des responsables des déplacés dans ce site qui héberge environ 45 000 ménages. Mapendo Nyunye Newton.
Je pense que dans quelques minutes, il y a les enquêteurs qui viennent. On va savoir qui ont fait cette fusillade.
Les camps des déplacés de Kanyarushinya situés à la porte d'entrée de la ville ne disposent jusqu'à ce jour d'aucune disposition sécuritaire adéquate. Les risques d'infiltration des criminels dans ces sites sont élevés car les entrées et les sorties de cet emplacement ne sont pas contrôlées en dépit des multiples appels lancés par les organisations locales et la société civile dans les territoires de Nyiragongo aux autorités compétentes. Contacté, le porte-parole du gouverneur, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, reconnaît l'acuité de la problématique et affirme que des dispositions sont en train d'être prises pour sécuriser ces lieux sans plus de détails néanmoins. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Toujours Nord Kivu, les combats ont repris tôt ce dimanche matin entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le groupement de Bishusha. C'est dans la chefferie de Bwitu, territoire de Rutshuru. Selon les sources contactées à Kichanga, des tirs sont entendus depuis 2h du matin dans la localité de Shumba, groupement Bishusha, à vingtaine de kilomètres de Kichanga. Elle précise que les éléments FARDC ont reconquis plus de 4 localités qui étaient occupées par les rebelles dans le groupement de Bishusha. Plusieurs groupes armés interviendraient aussi dans ces combats qui en sont au troisième jour ce dimanche dans cette zone, disent nos sources. On reste au Nord Kivu. La prise en charge médicale des militaires blessés de guerre est effective à l'hôpital militaire du camp Katindo de Goma. Cette mise au point a été faite hier samedi devant la presse par le commandant de la 3e zone de défense des FARDC, le lieutenant-général Marcel Mbangu Machita. Et cela contrairement aux allégations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de la non-prise en charge adéquate des militaires blessés lors des batailles dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Par la même occasion, une assistance en vivres a été apportée à ce même blessé. Reportage de Bernadie Diambo, témoin de l'événement.
Aussitôt arrivé à l'hôpital militaire du camp Katindo, le commandant 3e zone de défense a d'abord été conduit lors d'une visite guidée au dépôt de vivres et puis au dépôt des produits pharmaceutiques avant de chuter par une visite à toutes les tentes où sont hospitalisés les blessés de guerre. Après avoir échangé avec les militaires, le commandant 3e zone de défense a constaté que la prise en charge tant médicale qu'alimentaire est effective. Le lieutenant général Marcel Mbangu Machita.
Tous les militaires blessés que j'ai visités, aucun seul n'a pu attester cette allégation. En tout cas, tous ont témoigné que les médicaments sont disponibles et qu'ils sont pris en charge en tant que fils. J'ai vu les dépôts pleins de vivres. Il y a d'ailleurs une partie que le gouverneur de la province est venu lui-même donner il y a quelques jours passés.
Un lot important de vivres composé de sacs de haricots, sucre, riz, semoule de maïs, poisson salé, sel, carton de sardines à huile végétale, mais aussi d'eau minérale, a également été remis au médecin directeur de cet hôpital qui, à son tour, a remercié féliciter et saluer ces gestes salvateurs d'un père de famille, le colonel Dr Muyumba Lubanga Victor Guilin.
Il fallait seulement voir le visage de réconfort quand le commandant Zone a fait le tour de toutes les tentes et de toutes les salles. Ils sont réconfortés parce qu'ils ont leur vivre, ils ont les médicaments qui sont là.
Signalons que le commandant de la 3e zone de défense promet de suivre de près la situation de ces militaires qui défendent la nation congolaise. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Et puis à Butembo, le centre hospitalier de l'unité situé dans la partie nord de la ville enregistre ces derniers jours une carence des patients. Cette situation fait suite aux attaques répétitives par des groupes armés d'une position militaire située proche de cette structure sanitaire dans la cellule de Miyake, commune de Bulengera. Les responsables de ce centre hospitalier plaident ainsi auprès des autorités pour la délocalisation de cette position militaire afin d'épargner la population, plus particulièrement les patients, des conséquences de ces attaques. Mumbere Vatikirire George, gestionnaire administrateur du centre hospitalier de l'unité, explique au micro de Grévis Salomon.
Auparavant, au moins, on avait autour de 160-180 malades à consultation. Mais aujourd'hui, nous avons 37 malades à consultation. Ça fait une semaine aujourd'hui que nous avons été victimes d'une attaque. Et dont les malades qui étaient là, ils ont eu des tensions parce que il y a des vitres qui ont été cassées par les balles. Il y a même les murs qui ont été touchés. Et alors, cela entraîne une terreur. Même les personnels soignants, ils ont une grande crainte à tel point qu'ils commencent aujourd'hui a demandé de ne plus passer les nuits à l'hôpital pour faire uniquement les journées, alors que c'est une erreur grave parce que nous avons des femmes enceintes, la plupart qui viennent la nuit. Ils ont difficile à accoucher car les personnels ne sont pas présents à l'hôpital. Et les autorités politico-militaires de délocaliser la position militaire ne fût-ce qu'en 500 mètres de l'hôpital et non pas directement à 10 mètres dans l'hôpital. Tout à il foule les pieds pour chercher de l'eau alors que c'est l'eau que les malades doivent consommer. Alors nous avons mal maintenant à subvenir au problème de malades.
Autre nouvelle en Ituri, lancement ce samedi à Bunia du projet d'assistance aux victimes d'abus et exploitation sexuelle commis par le personnel des Nations Unies. Selon le responsable de l'organisation, Samani Yamazingira, qui va l'exécuter, l'objectif est non seulement la prise en charge scolaire des enfants victimes de ces abus, mais aussi l'accompagnement de leurs mamans aux métiers professionnels. Environ 30 personnes ont été formées pour identifier les bénéficiaires dans la communauté. Reportage Martial Kizabiamungu.
Il s'agit d'un projet d'une année financé par la Monisco à travers sa section des conduites et disciplines. Il consiste à renforcer économiquement les bénéficiaires qui sont principalement les personnes affectées par des abus et exploitations sexuelles perpétrés par les personnels des Nations Unies, mais aussi à sensibiliser la communauté à combattre ces fléaux dans la société. Delou Lusambia, coordonnateur de l'organisation Samani Yamazingira, explique.
Bon, nous allons identifier ces personnes qui ont été formées pour les intégrer dans les ateliers de coupe et couture, de pâtisserie, de salons qui existent dans la zone. Et puis on va chercher des coachs qui vont leur coacher sur comment élaborer les plans d'affaires, donc les business plans.
Un mécanisme de canalisation des plaintes à base communautaire est mise en place pour une bonne exécution de ces projets. Marie Kebazairi Baguma, présidente de cette structure, explique son rôle.
Nous intégrons cette sensibilisation à tous les niveaux, à toute activité que nous avons dans nos organisations. Nous insérons les messages par rapport à EAS ou bien abus et exploitation sexuelle.
Notons que ces projets concernent les villes de Bunia et Mahagi en Ituri, mais aussi Kisangani et Dungu pour les deux provinces voisines de la Tchopo et du Otuili. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'année 2023 devrait être et sera une année de paix pour la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, les Congolais doivent être unis autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tout en appuyant les FARDC pour faire face à l'agression dont est victime notre pays. C'est l'essentiel du message de Aimé Pascal Mongolo Konda, président du Congrès national africain pour le réveil du Congo, SNARC. Il a dit lors d'un meeting populaire au terrain Mambenga Masamba, situé au quartier 7 dans la commune de Ndjili, ici à Kinshasa. C'était à l'occasion de la sortie officielle de ce parti politique, membre de l'Union sacrée, hier samedi, le 17 décembre. On écoute Aimé Pascal Mongolo Konda, président de SNARC.
La RDC, notre pays, fait face à une agression injuste de la part de ses voisins, dont le Rwanda et le l'Ouganda qui se cache derrière le M23, qui a été bien nommé par les chefs de l'État comme étant des groupes terroristes. Et ces groupes sont en train de massacrer sans scrupule les Congolaises et Congolais. Il était temps, j'annonce, que la paix doit revenir en RDC. Et 2023 sera l'année de paix. L'arc-en-ciel de la RDC vient d'apparaître. Ça veut dire fini l'orage. Nous sommes les pionniers qui avaient accompagné les chefs de l'État pour mettre en place nos sacrés. Et donc, que les gens comprennent, ce pays a désormais un président et un roi qui s'appelle l'éternel Dieu Tout-Puissant.
Et puis, bonne nouvelle pour la province de Maïndombé. Elle vient de bénéficier d'un financement pour la plantation des 2000 arbres au cours de l'année prochaine, dont du Fonds forestier national. Ces arbres vont sécréter les crédits carbone et enfin de lutter contre le réchauffement climatique. C'est ce que déclare le chef d'antenne du Fonds forestier national de cette province, Jean-Albert Manzongo, lors d'un entretien téléphonique. Le point avec Irène Mbouma.
En marge de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, au moins 2000 arbres d'acacia vont être plantés sur une étendue de 4 hectares dans la province du Maïndombé. Le Fonds forestier national FEFEN antenne du Maïndombé a mis à la disposition de cette province un montant de 7 200 $ américains pour permettre la réalisation de ces projets en raison de 1 800 $ par hectare. Lutter contre le réchauffement climatique et ses effets pervers, tel est l'objectif de ces projets de reboisement. Jean-Albert Manzongo est le chef d'antenne du FEFEN Maïndombé.
Les projets de reboisement que la province a bénéficié auprès du Fonds forestier national pour assurer les reboisements afin pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets pervers. Parce qu'on va planter les acacias qui sont des arbres importants pour la séquestration des crédits carbone. Donc ça va avoisiner 2000 arbres qu'on va planter.
Notez que le Maïndombé étant une province très importante en RDC en ce qui concerne les richesses forestières, une brigade de reboisement sera bientôt créée dans cette partie du pays afin de pérenniser ces projets bénéficiaires du FEFEN. L'annonce a été faite lundi dernier par la gouverneure Rita Bola lors de la célébration de la Journée nationale de l'arbre à Inongo. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province du Bazouélé, environ 14 000 personnes, dont 68 femmes, souffrent de 68% de femmes souffrent du VIH-Sida. Ces statistiques ont été présentées par le Programme national multisectoriel de la lutte contre le VIH-Sida PNMLS au cours des manifestations organisées samedi à Bouta. Ceci en marge de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida célébrée le 1er décembre de chaque année. La majorité des malades viennent de l'intérieur et ne bénéficient pas de traitements antirétroviraux. Conséquence, plusieurs cas de décès et de nouveaux cas de contamination enregistrés dans différentes entités. Jacques Moukonkole.
La cérémonie commémorative de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année, a été décalée pour des raisons logistiques. Selon le ministre provincial de la Santé du Bazouélé, 13 250 personnes vivent avec le VIH-Sida, dont 68% des femmes, soit un taux de prévalence à impact viral de 2,4% au niveau national. Et d'ajouter que ce nombre va croissant faute d'une bonne sensibilisation de lutte contre cette pandémie. Pour sa part, le ministre provincial de l'éducation, assumant l'intérim du gouverneur qui a présidé cette cérémonie, appelle la population au respect des mesures de lutte contre ce fléau qui fait des victimes dans la province, notamment l'abstinence, la bonne fidélité, l'usage correct des préservatifs et le dépistage. Dans le souci d'intensifier la lutte contre le VIH-Sida, une série d'activités sur la sensibilisation est programmée par la coordination provinciale du PNMLS afin d'inculquer à la population, notamment des jeunes, une culture de la lutte contre le VIH-Sida. Ceci dans le souci de stopper ou de réduire cette pandémie dans le bas où elle est. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, un conducteur de motocyclette a été condamné ce vendredi à la peine capitale par le tribunal militaire de garnison de Mweneditu à plus ou moins 132 km de Mbujimayi. C'était au cours de l'audience publique qui s'est tenue sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Mweneditu. Ce taximen moto est poursuivi pour complicité dans le vol à mains armées ainsi que le meurtre de 3 personnes au mois de juillet dernier sur la route nationale numéro 1 au niveau de la localité de Kaniki à une trentaine de kilomètres de la ville de Mweneditu. Des explications avec Esther Ndalafina.
Kachaman Kongolo, alias Sandoka, est le présumé transporteur des assassins du motocycliste Cédric Kaniki et de ses deux clients. Le tribunal militaire de garnison de Mouneditou le poursuit pour complicité dans le meurtre des trois personnes au mois de juillet dernier sur la nationale numéro 1 au niveau de la localité de Kaniki à une trentaine de kilomètres de Mouneditou. Le tribunal militaire de garnison poursuit aussi Kachaman Kongolo, alias Sandoka, pour vol à main armée d'une importante somme d'argent évaluée à près de 25 000 dollars et de plusieurs biens de valeur appartenant aux victimes. Après avoir requalifié toutes les infractions au profit du meurtre et le vol à main armée, le ministère public a requis la peine capitale à l'endroit d'un Kachama alias Sandoka. Le condamné est aussi sommé de payer à la partie civile la somme de 50 000 dollars américains équivalent en francs congolais comme frais de dommages et intérêts. Le conseiller principal, Maître Auguste Mbuyamba, un des avocats du condamné, dit respecter le verdict, mais affirme avoir interjeté l'appel. Signalons que cette condamnation est perçue à Mouneditou comme un signal fort pour décourager les malfaiteurs. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À l'heure de la fermeture des bureaux de vote hier à 18h, 17h temps universel, le taux de participation pour le scrutin législatif tunisien samedi 17 était à 8,8% selon le président de l'autorité électorale Farouk Bouarsker. Un chiffre à compléter avec quelques bureaux fermés plus tard. Cette forte abstention intervient alors que les pouvoirs du Parlement se sont considérablement réduits avec l'adoption d'une nouvelle constitution instaurant un régime ultra-présidentiel.
L'invité.
Notre invité est le docteur Elia Badjo, médecin coordonnateur du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine dans le Nord Kivu. Il nous parle ici des activités menées en faveur des déplacés de guerre se trouvant dans différents sites à Goma. Docteur Elia Badjo s'entretient avec Mathieu Ilunga Chamboui. Suivez.
Docteur Elia Badjo, bonjour.
Bonjour, monsieur Mathieu.
Vous venez de célébrer la journée internationale de la santé universelle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la clôture dans ces jours?
COSAMED a organisé une série d'activités, notamment une table ronde de discussion avec les différents acteurs de la CSU. Également, on a contextualisé le thème de notre célébration et que c'est la problématique d'accessibilité aux services de santé pour les personnes déplacées dans les contextes de COVID-19. Parce que ce sont des personnes qui sont souvent laissées de côté, les personnes vulnérables incluent le déplacé interne.
Depuis tout ce temps, pourquoi vous n'aviez pas pensé aux déplacés du fait qu'ils sont vulnérables comme d'autres personnes?
Au fait, nous faisions toujours des actions, mais cette journée constitue pour nous une occasion pour élever encore la voix, pour rappeler à nos dirigeants, nos autorités, les engagements qu'ils ont pris pour nous faire parvenir à la santé pour tous. Donc c'est une occasion pour nous d'élever encore la voix, d'appeler tout le monde à des actions concrètes qui nous amènent vers la couverture santé universelle. Ça veut dire, on a dit maintenant, il y a des gens qui sont laissés de côté. Attirons notre attention sur eux. Actuellement, il y a beaucoup de cas de choléra qui se sont élevés au niveau des sites de déplacés. Heureusement, il y a le gouverneur de province qui a déclaré une épidémie dans la zone de santé de Nyiragongo. Il y a la zone de santé de Karisimbi qui est aussi affectée. Il y a 9 zones de santé qui sont affectées avec de déplacés à cause de cette crise actuelle dans le Nord Kivu. Et tous ces déplacés, je vous assure, ils ont des besoins multisectoriels. C'est ce que nous appelons les déterminants de la santé. Et là, nous devions rappeler à ça. Et donc, si on ne fait pas attention à ces vulnérables, la CSU nous dit que personne ne doit pas être laissé pour compte. Il ne doit pas vendre son bétail pour s'acheter de l'eau. Il ne doit pas vendre son bétail pour payer les soins ou les médicaments à la pharmacie.
Depuis tout ce temps que le COSAMED a constaté ces difficultés de déplacer, qu'est-ce qu'on a déjà fait?
Nous avons des équipes de médecins mobiles qui offrent des services de santé à ces déplacés. Nous avons installé, avec l'appui, l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé, puis l'OMS, il nous a doté une tente. Avec cette tente, nous avons fait une clinique avancée en collaboration avec la zone de santé vers les sites de déplacés. Nous avons installé des médecins et les infirmiers et les relais communautaires pour donner les soins de santé de base à ces déplacés. Mais bien sûr, je dois vous dire clairement que les moyens sont limités. C'est à nos moyens propres, mais c'est l'engagement total de l'État. L'État doit faire son engagement, doit prendre des choses au sérieux. Et s'ils veulent déjà pour la mise en œuvre, les ambassades, on voit les autres pays, ils travaillent avec les ONG nationales, ils donnent les ressources à leurs moyens et puis ils vont aller le faire. Le président ne sera pas partout même. même moment, le ministre ne sera pas partout au même moment. Et donc, ce sont les occasions pareilles qu'on doit les rappeler les responsabilités.
Alors, pour le COSAMED que vous représentez, qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer les mêmes politiques pour la prise en charge sanitaire de ces vulnérables ainsi que d'autres personnes qui sont dans les besoins?
Et c'est parmi les clauses de cette célébration. La couverture sanitaire universelle, l'engagement est encore au niveau national. Le président de la République s'est engagé. Il a mis en place une ordonnance présidentielle qui a nommé un conseiller national de la couverture universelle. Il y a aussi des décrets du Premier ministre qui mettent en place des fonds de solidarité de santé, fonds de promotion de la santé. Il y a 5 décrets. Au niveau toujours national, parlementaire, ils ont voté une loi qui donne la couverture sanitaire universelle, qui montre encore que c'est un droit à la population. Et ces lois existent déjà au niveau national. Ça doit se répercuter. L'engagement doit se faire au niveau des provinces. Les gouverneurs des provinces doivent être engagés. On doit avoir les élus provinciaux. On doit avoir des feuilles de route au niveau des provinces. Notamment, la province de Kivu a déjà avancé un peu. On a une feuille de route et ça doit être actualisé suivant les contextes actuels. Contexte actuel, contexte sécuritaire et les lois qui sont déjà mises en place. Donc, les provinces doivent être actualisées et réactivées pour cette session. Et nous devons retenir que la CSU, c'est déjà un engagement pris par le pays et on doit y aller. Et deuxièmement, on doit directement mettre en place des actions concrètes. Passons des promesses vers les actions en couvrant les personnes qui sont laissées de côté.
Qu'est-ce que nous pouvons entendre, surtout par rapport à vos plaidoyers, les activités ou bien les actions que vous menez concrètement par rapport aux déplacés dont vous faites allusion que ce sont des vulnérables?
On est des médecins, des infirmiers, des agents de santé communautaire sur terrain en appui au ministère de la Santé. Et donc, nous appelons à les organisations, les partenaires financiers et les gouvernements de venir nous accompagner de plus pour faire cette stratégie toujours avancée, faire de rapprocher les soins à se déplacer, tout appui nécessaire, matériel, de tout genre. Et nous sommes vraiment réceptifs et COSAMED sera prêt à travailler avec tout le monde et le gouvernement pour aider nos compatriotes.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, fin de cette édition. La mise en onde était assurée par Polydor Basunga. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination d'Emmanuel Elamegi et la supervision de Pelé Kipelamondo. Merci également à vous pour votre particulière attention.